France Inter, le 6-9 du week-end.
La main verte à présent, la main verte d'Alain Baraton. Bonjour Alain.
Bonjour Eric, bonjour Patricia, bonjour à tous.
Bonjour mon cher Alain.
Toujours à distance, en direct de Versailles, avec une première question. Peut-on comparer le confinement pour les humains et la dormance pour les graines ?
Oui, même si une graine ne dort pas vraiment, elle attend elle aussi que les conditions nécessaires à son bon développement soient réunies pour se manifester. En faisant ainsi, la graine se protège par exemple des brûlures dues au soleil ou du gel qui ferait éclater les cellules.
Et combien de temps une graine peut-elle vivre en dormance ?
Alors tout est fonction de son environnement. L'un des tout premiers scientifiques à s'intéresser aux graines s'appelle Charles Darwin. Je rappelle qu'il est né en 1809 et mort en 1882. Alors en étudiant dans son laboratoire 193 grammes de vase prélevé dans un étang, il en extrait plusieurs centaines et il parviendra à faire germer, écoutez, c'est assez incroyable, 593 plantes de différentes espèces, 593 plantes donc, qui patientaient tranquillement au fond de l'eau en attendant des jours meilleurs.
Et l'un des meilleurs exemples de dormance est la graine du coquelicot.
Oui, et bien, pas seulement de dormance comme exemple, mais d'adaptation. Cette fleur que nous connaissons tous avait bien failli disparaître de nos paysages dans les années 1970. La faute, vous vous en doutez, au désherbant chimique. Tous les ans, la plante disséminait dans la nature ses graines et tous les ans, au printemps, les produits détruisaient les jeunes pousses. Contrairement aux attentes, les graines se sont adaptées. Il y a une cinquantaine d'années, les graines de coquelicot germaient en moyenne l'année de leur semis. Mais depuis...
Ah bien, nous avons perdu Alain Baraton qui nous explique la dormance des graines. Est-ce qu'on est en liaison avec Alain Baraton, le jardinier en chef du parc et du... pas du château, mais du parc. Oui, on vous a retrouvé, Alain. Alain, vous êtes là. Oui, je vous entends bien, Alain. On vous demandait la dernière question sur les graines. Est-ce qu'il est vrai que certaines graines conservent leur pouvoir de germination pendant plusieurs siècles ?
Et oui. Alors cela s'est dit bien sûr pour des grains de blé semés du temps des pharaons, mais je dois vous avouer, Eric, que je n'ai trouvé aucun document officiel attestant de cette histoire. Ce qui est incontestable est le record détenu par des graines de Silène sténophylla. Alors les Silène sténophylla, ce sont des vivaces herbacées qui poussent en Sibérie. Elles ont été découvertes en 2012, je parle bien des graines, par une équipe de scientifiques russes sous 38 mètres de glace. Elles y étaient, écoutez, c'est incroyable, depuis 32 000 ans, j'ai bien dit 32 000 ans, et après avoir été semées en laboratoire, elles ont donné naissance à de nouveaux plants.
32 000 ans après, ça marche encore, Alain Baraton, merci.
Vos réponses, c'est incroyable.
Vos réponses à présent et vos conseils aux auditeurs de France Inter qui nous ont fait parvenir leurs questions sur franceinter.fr, avec Germain pour commencer. Germain n'a pas eu le temps d'acheter ses graines de laitue, alors il compte utiliser les plus anciennes, mais comment savoir si elles sont encore en état ?
Oh, Germain ne doit pas être le seul à se poser cette question, d'où l'importance de garder les emballages qui indiquent généralement les dates de préemption, d'où l'intérêt aussi de conserver les graines au sec, au frais, dans l'obscurité, c'est très important. Mais sachez, Eric et Germain, qu'une graine de laitue peut se garder en moyenne, je parle de moyenne bien sûr, entre 4 et 5 ans, mais les carottes... 5 ans, haricots, 3 ans, fèves, 5 ans, les tomates par exemple, tiens, presque 10 ans. Si vous avez bien conservé des graines de tomates récoltées l'année dernière, vous pouvez les conserver et les faire ressemer au bout de 10 ans, aubergines 6 ans ou encore betteraves 6 ans. Comme quoi, vous voyez, les plantes, elles, peuvent s'adapter longtemps. Les orties, plus de 30 ans. Hein. Soyez tranquille, vous n'avez pas fini de vous piquer en vous allongeant dans les pelouses.
Alors, avec ce confinement, il est parfois difficile d'aller arroser les plantes. Claudine vous demande combien de temps peut vivre un ficus sans être arrosé ?
Alors, il est très difficile de répondre à cette question. Tout dépend, vous vous en doutez, de la dernière date à laquelle il a été arrosé, du volume du pot, de son emplacement, le bureau, parce que souvent ce sont les gens qui ont des bureaux, est-ce qu'il est chauffé ou pas, est-ce qu'il est près de la fenêtre ou pas, de la taille de la plante. On peut simplement dire la chose suivante, c'est que lorsque le ficus a perdu l'intégralité de ses feuilles, 15 jours après, il est mort. Ce qui veut dire, pour faire très clair, qu'un ficus non arrosé a une espérance de vie maximum de 3 semaines, 1 mois au-delà. Il ne sera malheureusement pas possible, eh bien, de lui redonner vie.
Stéphanie voudrait vous parler de ces hortensias. À la sortie de l'été, mes hortensias présentent souvent des feuilles recroquevillées et elles deviennent marron. Pourquoi ? Un et deux, que faut-il faire ?
Alors généralement, quand vous avez chez les hortensias et les hydrangeas en général, eh bien ces symptômes, feuilles recroquevillées, ça devient vraiment tout ombre. On a l'impression que la plante est morte. Alors ça peut être déjà un manque d'eau, ça peut être aussi eh bien le soleil de midi en été qui est trop violent. Le soleil de midi, c'est il y a beaucoup de plantes qui détestent être là où le soleil tape le plus fort, entre midi et 14h. Exemple, le camélia, il déteste ça. Et puis souvent, c'est dû à un compactage des sols. Lorsque la terre n'est pas suffisamment drainée ou qu'elle est trop tassée, l'eau ne peut pas s'écouler et la plante ne peut plus vivre normalement, les racines sont asphyxiées. Et j'en profite, Eric, pour vous rappeler que quand une plante a les racines asphyxiées, elle ne peut plus absorber d'eau et à ce titre, la plante va mourir. Une plante qui est dans une terre humide, quand vous inondez le sol, vous asphyxiez la racine, elle ne peut plus boire. Paradoxe, dans une eau inondée, dans une terre inondée, la plante meurt de soif.
Question de Madame Poitou à Saint-Georges. Est-ce le moment de greffer un pommier ?
Alors, le greffage des pommiers se fait lors du repos végétatif, toujours. Donc, quand il n'y a plus de feuilles, donc c'est l'idéal, je dirais, en janvier-février. Je ne vous expliquerai pas aujourd'hui comment greffer un pommier, c'est trop complexe et il faut vraiment avoir la main verte. Mmh. C'est simplement prélever une branche ou un rameau ou un bourgeon sur un végétal pour le greffer sur un autre végétal. Et j'en profite pour rappeler que quand vous greffez une plante à fleurs blanches, par exemple, sur une plante à fleurs rouges, vous n'obtenez pas une plante à fleurs roses, mais toujours de la couleur du greffon, donc de la partie rapportée.
Question de Pierre qui vous demande, que va-t-il se produire si je ne peux pas tailler en temps et en heure mes arbustes, comme par exemple mes forsythias ?
Eh oui, beaucoup de ceux qui nous écoutent ont des maisons à la campagne, ils aimeraient bien les jardiner, ils ne peuvent pas. Alors, bien entendu, on respecte le confinement, les plantes, elles, pourront se passer du sécateur pendant quelques temps. Un forsythia non taillé après la floraison peut largement attendre 2 voire 3 mois avant une petite coupe. Il pourra même passer l'année tranquillement sans être taillé. Et si la plante devient trop volumineuse, quand nous rejoindrons nos propriétés, je l'espère, quand je dis nos propriétés, hein, moi je n'en ai pas personnellement, mais je pense à ceux qui en ont, eh bien il sera toujours possible de couper en été. Donc il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de caractère prioritaire.
Le jardinage, en ce moment, c'est une bonne façon de s'occuper pour ceux qui ont la chance d'avoir un bout de terrain à proximité. On va terminer avec un livre, Alain Baraton, un livre pour terminer donc.
Ah, j'aime beaucoup ce livre, Miscellanée des fleurs. Il a été écrit par Anne-France d'Hauteville. Il est publié chez Buchet-Chastel. Il coûte, pour faire plaisir à Patricia, 15€, 144 pages. Voilà. Et on parle de tout dans cet ouvrage. De la date de la première apparition de la fleur sur la terre, d'où vient le nom du frangipanier, pourquoi les orchidées attirent-elles les butineurs, etc., etc. C'est une source de plaisir, une source d'enseignement. C'est très agréable à lire et donc c'est vraiment un beau cadeau à se faire ou à offrir.
Eh bien, vous nous expliquerez bientôt d'où vient le nom du frangipanier.
Alain, je n'aurais pensé que ça m'arriverait un jour, mais je vous imagine assis sur le bord de votre lit, en pyjama molletonné, plutôt dans les bleus, des charentaises aux pieds, une petite trace rose d'oreiller sur votre joue droite.
À Versailles.
Dois-je répondre honnêtement ? Je suis dans ma cuisine en peignoir et j'ai bien effectivement au pied des pantoufles.
La main verte d'Alain Baraton à distance au parc de Versailles. Merci Alain et à samedi
Merci
prochain.
À vous.